Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
tout ici Jabodima
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Alors, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui des 7 clés pour la sagesse. La Bible nous dit dans Osée, au chapitre 4 et au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Parler du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, ils avaient reçu des principes de sagesse de Dieu dans sa parole, dans la loi de Dieu, et ils n'en avaient pas tenu compte. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. Parce qu'il y avait d'un côté les bénédictions qui devaient venir sur eux, et d'un autre les malédictions qui viendraient s'ils ne font pas ce qui est dans la parole de Dieu. Et ils ont pu expérimenter cette parole qu'ils sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance de Dieu et de sa parole. J'ai là une petite phrase que je vous donne pour méditer. En fait, elle n'est pas si petite que ça, elle est assez longue. C'est la présence de Jésus nous garantit la paix intérieure. Combien d'entre vous, vous l'avez déjà expérimenté? La présence de Jésus vous garantit la paix. Quand vous avez fait une expérience, vous avez réalisé que ce Jésus de Nazareth, mort sur la croix, voulait être votre sauveur, votre Seigneur. Vous vous rappelez de ce moment? Vous avez vraiment réalisé qu'il était le seul que Dieu nous ait envoyé pour nous sauver. Et le seul qui pouvait nous aider dans notre détresse. Et cette présence nous garantit la paix intérieure. Elle nous garantit autre chose aussi, elle nous donne l'assurance pour l'au-delà. On n'a pas besoin d'être très intelligent pour se rendre compte que notre vie terrestre est limitée. Nous ne savons pas combien de jours exactement nous allons vivre, mais ce que tout le monde peut savoir, c'est qu'on ne vivra pas indéfiniment ici sur terre. Nous allons, un moment, notre vie va s'arrêter. La Bible dit... Certains, c'est jusqu'à 70. D'autres, c'est jusqu'à 80 ans. Pour les plus robustes, c'était dans le psaume à un moment. Ça ne veut pas du tout dire que c'était la longueur de vie que Dieu avait prévue. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, les gens se sont rendus compte. Ben, ils vivent 70, 80 ans. Les progrès de la médecine permettent de prolonger un peu la vie des gens. Mais Dieu avait prévu tout à fait autre chose au départ. Et donc... Ce que la présence de Jésus nous garantit aussi, c'est quelque chose pour l'au-delà. Quand notre vie s'arrête, nous savons qu'il y a quelque chose après. Nous savons où nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux? Au lieu de vivre comme un chien qui est écrasé, ou une mouche qu'on tape contre un mur, et puis c'est fini, il n'y a plus rien. Mais nous ressentons au fond de nous-mêmes, la Bible nous le dit, elle dit que Dieu nous a donné la pensée de l'éternité. C'est dans Ecclésiaste. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous sommes créés de façon à penser pour l'éternité. Nous ne pouvons pas imaginer quelque chose qui s'arrête, c'est terminé et il n'y a plus rien. Nous sommes faits ainsi. Donc voilà pour ce qui est de la présence de Jésus. Maintenant, il y a autre chose, c'est les principes de Jésus. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est auprès de vous et ça vous fait du bien. Mais vous pouvez aussi avoir cette personne qui vous parle, qui vous donne des conseils ou des instructions. Et vous ne pouvez pas seulement dire « Ah, j'aime entendre le son de sa voix, ça me fait du bien, ça me berce. » La présence de Jésus est agréable, mais les principes de Jésus sont importants aussi. Et nous sommes là, rassemblés, pour entendre des clés pour la sagesse, pour savoir comment conduire notre vie. Si vous voulez le résumé de ce que je viens de dire, que les principes de Jésus nous donnent de vivre avec la sagesse de Dieu ici-bas, pourraient être résumés dans ce passage de Matthieu 11, verset 28, que beaucoup de gens l'aiment. Moi aussi je l'aime beaucoup. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. N'aimez pas ce passage? Quand vous sentez un peu pas en forme, pas seulement une fatigue physique, mais un abattement, lassitude, découragement, que ça fait du bien d'entendre que Jésus nous dit, eh bien, venez à moi, et je vais vous faire du bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'ensuite, il ne dit pas seulement venez avec moi et tout ira bien. Il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et je pense que c'est cette partie que beaucoup de gens ratent un petit peu des fois. Ils ont la partie où ils savent que venir à Jésus va leur faire du bien. Mais quand ils sont dans sa présence, ils ne savent que faire. Mais dans sa présence, c'est le moment alors d'entendre ses instructions. Prendre son joug, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il charge sur nos épaules un fardeau qui serait lourd et qui serait difficile à porter. Puisqu'il dit après, il dit, « Je suis doux, humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il veut simplement nous dire que si vous pouvez vous imaginer cette image de cet attelage un peu traditionnel, on ne trouve plus beaucoup maintenant, mais 50 ans en arrière, on pouvait encore voir peut-être une paire de bœufs attachés ensemble sous le même joug, ce morceau de bois où ils étaient solidement attachés, et ensemble ils tiraient et leur force augmentait. Mais ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller dans deux directions différentes. Une bête ne pouvait pas aller à gauche pendant que l'autre va à droite. Ils étaient obligés d'aller tous les deux dans la même direction. Et c'est ce que Jésus veut nous dire. Quand vous prenez mon joug, vous êtes attachés avec moi pour aller dans la même direction. Ça, c'est une chose. Acceptez que Jésus vous donne une direction pour votre vie. Et ensuite, recevez mes instructions. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de recevoir des instructions. Des instructions de sagesse. La sagesse, c'est des sources de vie pour celui qui les connaît. C'est la différence entre le présent et votre futur. La sagesse de Dieu est la différence. Dites-le avec moi. La sagesse de Dieu est la différence entre mon présent et mon futur. C'est la loi de Dieu appliquée à notre vie. C'est la compréhension, comprendre des choses que Dieu voudrait nous montrer. C'est ce qui fait la différence entre le succès et l'échec. Souvent, nous pensons que nous avons besoin de beaucoup de choses. Mais avant de désirer les choses ou de penser que les choses seront la solution de Dieu à notre problème, nous avons besoin de réaliser que c'est la sagesse de Dieu qui nous permettra de voir ce qu'il nous faut d'abord. Alors, on va passer en revue à nouveau cette clé pour la sagesse. La première clé, c'était « Ce que vous voyez détermine ce que vous désirez. » Alors, je passe un peu plus rapidement sur ce que nous avons déjà vu. Ce que nous voyons détermine ce que nous désirons. On le comprend dans le sens négatif. Les gens qui mettent des choses devant leurs yeux finissent par les désirer. Ça peut être mauvais, ça peut être dans le sens de la convoitise qui nous détruit. Ça peut être dans un sens positif. La Bible nous dit que nous devons avoir nos regards fixés sur Jésus. Vous vous rappelez de ce passage, Hébreux 12, 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus ». Ça ne veut pas dire se faire une image mentale de Jésus, d'après les images, les icônes, les croix, crucifix et tout le reste, mais ça veut dire fixer nos regards sur la parole de Dieu, là où nous voyons Jésus agir. Là où nous le voyons parler. Et ça nous fait une image. Ça nous fait un tableau de qui il est réellement. Et dans un sens pratique, et là j'aimerais qu'on prenne un peu de temps, dans un sens pratique, ce que vous voyez détermine ce que vous désirez. Quels sont vos désirs dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que la culture, ça peut être la culture au niveau de la télévision. Dans notre société, on voit toutes ces séries où on vous dessine l'image d'une vie idéale avec le soleil tout le temps, une belle villa avec piscine, une grosse voiture qui s'arrête devant, des choses comme ça, forment une image de quelque chose qui semble admirable aux yeux de beaucoup de gens. En même temps, c'est du domaine du rêve. Mais à force de fixer leur regard sur cela, voilà ce qu'ils désirent. Ils peuvent être malheureux dans leur situation et voilà ce qu'ils ont devant leurs yeux. Mais vous devez pouvoir réaliser, est-ce que je sais précisément ce que j'attends de l'avenir? Qu'est-ce que j'en attends? Est-ce que vous pouvez me dire vos objectifs? Est-ce que vous en avez déjà? Une façon de voir si quelqu'un a un esprit de pauvreté, c'est de voir qu'il ne pense pas au lendemain. Les gens qui sont pauvres, à la fois matériellement et aussi intérieurement, ils n'ont pas de conception pour l'avenir. Leur unique objectif, c'est la survie. Ah, ben oui, quand on est pauvre, ce qu'on veut, c'est d'abord pouvoir survivre. Mais la Bible nous montre que Dieu a des projets pour nous, des projets d'avenir. Nous devons apprendre à penser comme Dieu. Quand le peuple d'Israël était dans une situation tragique, ils étaient à l'époque en exil à Babylone. Il a dit par le prophète Jérémie au chapitre 29 et au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Un peuple en exil, quels sont les projets qu'il peut avoir? Peut-être ils se sont dit, « Jamais on s'en sortira. On restera dans un semi-esclavage pendant le reste de notre vie. » Mais Dieu leur dit par le prophète, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » C'est bien que Dieu connaisse les projets, mais si nous ne les connaissons pas, ça sert à quoi? C'est pourquoi la sagesse de Dieu veut nous communiquer les projets. Il dit, « J'ai de bons projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Est-ce que vous avez un avenir? Eh bien, vous pouvez mettre cet avenir devant vos yeux. En anglais, ils appellent ça le « dream wall », ça veut dire un mur de rêve. Vous pouvez, nous avons dans notre salle de culte ici, nous avons mis un certain nombre de choses sur nos murs que les gens maintenant qui nous regardent ne peuvent pas le voir, mais je peux le décrire. Nous avons par exemple sur notre mur ici, nous avons Jérusalem. Ça nous fait penser à Israël, ça nous fait penser à nos racines, les racines de notre foi. De là est venu le salut. Ensuite, nous avons sur notre mur une grande carte du monde qui nous fait penser que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous pensons aussi au monde, et nous pensons à ces gens qui sont dans le monde, ces gens que nous voulons atteindre par la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons aussi une carte particulière où il est dit, c'est là où la foi coûte le plus cher. C'est l'endroit du monde où il est difficile d'être chrétien, où les gens souffrent à cause de leur foi. Et ça n'a rien à voir avec le fait que votre voisin vous regarde de travers ou que quelqu'un se moque de vous. Ça veut dire que vous êtes en danger de mort et qu'éventuellement on vient vous jeter en prison, prendre tout ce que vous avez et ou même vous tuer. Et puis nous avons d'autres choses sur nos murs, mais cela nous parle. Je ne vais pas continuer maintenant la description, mais cela nous parle de ce que nous croyons et de ce que nous désirons. Et pour vous-même, je ne sais pas ce qu'il en est, peut-être votre intérieur est simplement décoré pour être joli, mais si vous rentrez dans la chambre des jeunes, par exemple, en particulier, les enfants, on ne leur demande pas trop, on leur met un petit peu sur les murs ce qu'on pense pour eux, mais au bout d'un moment, quand on devient plus âgé, les enfants aiment bien mettre leur propre décoration. Et c'est les choses qu'ils aiment. Alors ils mettent par exemple les photos des chanteurs qu'ils aiment. Et puis ce sont à la fois des gens qu'ils admirent, qui des fois deviennent des idoles, ce sont des modèles, et c'est peut-être aussi un modèle dans le sens que c'est quelque chose qu'on aimerait devenir. Mais je vais prendre cet exemple pour dire que tous ces jeunes qui regardent des photos de stars qu'ils mettent sur leur mur et qui désirent le devenir, je dis dans un sens c'est bon. C'est bon parce que ça veut dire qu'ils attendent quelque chose de l'avenir. Ils veulent quelque chose. Et je dis, et nous qui sommes un peu plus grands ou plus âgés, nous avons besoin aussi que sous nos yeux, clairement, nous puissions voir ce que nous désirons obtenir de Dieu, ce que nous désirons qu'il fasse de notre vie. Jacob avait utilisé cela, on va voir ça dans Genèse au chapitre 30 et au verset 25. Vous pouvez regarder avec moi dans la Bible si vous voulez. Chapitre 30. Non, je vais prendre un peu plus loin déjà. Ça commence à partir du verset 25 et j'ai un petit titre. Comment Jacob s'enrichit? J'ai parlé des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de vision pour l'avenir. Jacob était pauvre. Vous savez ce qu'il avait quand il a dû fuir sa famille? Il avait son bâton. C'est tout ce qu'il avait, un bâton, c'est pas beaucoup, hein. Et il nous a dit qu'il a dû fuir sa famille et il n'avait que son bâton. Et il arrive au milieu de parents à lui. Et là, pour ceux qui connaissent l'histoire, il finit par se marier avec une jeune femme. Et son beau-père, Laban, lui donne la charge de son troupeau. Et pendant que Jacob s'occupe du troupeau, à cause de sa foi en Dieu, le troupeau augmente et ça se multiplie. Et Laban devient riche à cause de Jacob. Mais Jacob n'en profite pas. Ce n'est pas à lui, c'est à son beau-père. Il est en train de faire venir la bénédiction de Dieu dans cette famille. Laban s'en rend compte. Alors il essaye souvent de tricher sur les accords qu'ils avaient faits. Il a dit « Je te servirai 7 ans pour ta fille Rachel. » Et Laban l'a trompé. Il lui a pas donné sa fille Rachel, il a donné une autre de ses filles. Alors, parce qu'il aimait Rachel et qu'il voulait l'avoir pour femme, il a dit « Eh bien, je suis d'accord, je te servirai encore 7 ans, cette fois-ci pour Rachel. » Et quand ça s'était fini, il a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire pour toi-même ?» Ensuite, il l'a encore fait travailler pour lui-même et il a changé son salaire constamment parce qu'il avait compris qu'il était béni avec Jacob. Et il désirait le garder auprès de lui le plus longtemps possible. Et c'est le moment où Jacob justement se rend compte que la bénédiction de Dieu est avec lui, mais lui n'en profite pas et tout va vers son beau-père. Alors il dit maintenant je voudrais avoir quelque chose qui est à moi. Alors ils conviennent à nouveau, ils ont un accord. Et puis il dit, voilà, ils vont trier le troupeau. Et parmi les brebis, donc tout ce qui est acheté et marqueté, et tout agneau noir, ils vont le mettre de côté. Et donc ils trient d'une certaine façon, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais le fait est qu'à un moment, Jacob a une partie du troupeau dont il a la charge, la surveillance. Et cette partie, eh bien, à nouveau prospère, se développe, multiplie. Mais elle produit exactement les agneaux et plus tard les brebis qu'ils avaient convenu qu'ils seraient à lui. Et voilà comment il fait. Au verset 37, il nous est dit « Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier, de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, elles faisaient des petits rayés tachetés, marquetés, ce qu'ils avaient convenu. Alors nous pouvons être un peu étonnés de cette procédure, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est au chapitre 31, l'explication de Jacob. Au verset 7, Jacob dit « Votre père Laban s'est joué de moi, il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. » Et ça, c'est particulièrement important pour nous de réaliser ça. Il levait les yeux en songe. Le songe est quelque chose de surnaturel. Le songe n'est pas simplement un rêve. C'est quelque chose reçu de Dieu. C'est pour ça que je dis que ce que vous voyez détermine ce que vous désirez. Permettez à Dieu d'alimenter vos rêves, vos songes et vos désirs. Mettez cela devant vos yeux et vous verrez des changements. C'est la première étape pour la sagesse. Ça ne sert à rien de savoir qu'il y a des richesses infinies au ciel si ici-bas on n'en profite jamais. Et plus tard, nous verrons ces choses quand nous serons dans la présence de Dieu. Mais nous avons besoin de quelque chose pour vivre ici. C'est pourquoi la présence de Jésus nous garantit la paix intérieure, nous garantit quelque chose pour l'au-delà, mais les principes de Jésus que nous sommes en train de voir nous garantissent quelque chose de la sagesse de Dieu pour vivre ici-bas. Ça continue. L'ange de Dieu me dit en son « Jacob ». Je répondis « Me voici ». Il dit « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés. Car j'ai vu tout ce que t'a fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta naissance. » Donc voilà la parole de Dieu. Comment Dieu a permis à Jacob de se sortir de sa situation de pauvreté et de revenir dans son état initial, c'est-à-dire dans le pays où il était né. Donc, prenez-en instruction et faites aussi ce que vous pouvez de la part de Dieu pour recevoir de lui sa vision. Le deuxième point de sagesse que nous avions vu, c'est tout mouvement vers l'ordre va produire de la satisfaction. Que nous avons besoin de mettre de l'ordre dans notre vie, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, nous dit 1 Corinthiens 14, 33. Alors, quelqu'un pourrait dire, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, ne veut pas dire Dieu est un Dieu d'ordre. Mais au verset 40, il est dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. L'ordre de Dieu, c'est la paix de Dieu, le shalom, où rien ne manque, rien n'est brisé, tout est complet, tout est parfaitement dans l'ordre. L'exemple type, c'est que lorsqu'il y a du désordre dans notre corps, on est malade. Mais quand tout marche d'après l'ordre de Dieu et l'harmonie, alors on jouit de la bonne santé. Le troisième point que nous avions vu, c'est que l'endroit où nous sommes est aussi important que ce que nous sommes. Où vous êtes est aussi important que ce que vous êtes. Dans Deutéronome 12, 4, nous avons vu comment Dieu a insisté pour leur donner un lieu. Il leur a donné un endroit d'adoration. Il dit, quand vous voudrez rencontrer Dieu, il faudra le faire à l'endroit où il a dit. Vous le connaissez cet endroit ? Pour le peuple d'Israël, ça voulait dire un endroit précis. Il a dit, je vais vous montrer l'endroit. Je vais vous révéler où est cet endroit. Cet endroit, c'est le mont Morija. Le mont Morija, c'est là où Abraham est allé offrir Isaac. Dieu l'a empêché, il n'a pas sacrifié Isaac. Parce qu'on parle souvent du sacrifice d'Isaac, qui en fait n'a pas eu lieu. Mais il l'a offert à Dieu, et Dieu l'a empêché de tuer son fils. Mais c'était le lieu du mont Morija. Le mont Morija est un endroit à Jérusalem où a été établi le temple selon les instructions de Dieu. Cet endroit est un lieu contesté par le diable. Il y a une grande guerre spirituelle autour du lieu. C'est pourquoi le premier temple a été détruit. Le peuple s'est détourné de Dieu, les Babyloniens sont venus, ils ont détruit, brûlé le temple. Ensuite, le second temple a été construit et les Romains sont venus. Ils ont brûlé et détruit le temple. C'était en 70. Entre-temps, l'islam est apparu. Et il y a eu les Ottomans, il y a eu toutes sortes de califes et de sultans qui se sont succédés. Et Jérusalem a été sous domination musulmane pendant longtemps. Et il y a eu des mosquées qui ont été établies à cet endroit. Mais pour le peuple d'Israël, cet endroit est et reste ce lieu que Dieu leur a donné dans sa loi. D'où le désir de certains juifs actuellement de faire des préparatifs pour reconstruire le temple à cet endroit. Nous ne pouvons pas encore imaginer comment est-ce possible. Actuellement, cet endroit n'appartient pas aux juifs, il appartient aux musulmans et il y a des mosquées à cet endroit. Il y a une mosquée pas loin et il y a le dôme du rocher. Donc on est un peu perplexe parce qu'on se dit comment ces choses vont-elles pouvoir se réaliser. Mais on comprend d'après la logique du peuple d'Israël qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce que la loi de leur Dieu a été donnée. Ils doivent adorer Dieu à cet endroit. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous avons une nouvelle alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Et nous n'avons pas un lieu particulier où nous devons adorer. Nous n'avons même pas de temple. Nous n'avons pas de temple. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes sommes appelés à être le temple de l'Éternel. Et des fois, nous disons, nous parlons de la maison de Dieu en allant au bâtiment où nous faisons nos cultes et nos services de louange, adoration, où il y a la prédication de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas réellement la maison de Dieu. C'est un endroit qui est consacré pour le service de Dieu, mais en réalité, c'est nous, le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est que lorsque nous venons ici que Dieu y est. Sinon, qu'est-ce qu'il y ferait ? Bon, d'une certaine façon, Dieu est partout, ça nous le savons. Mais il se manifeste d'une façon particulière. Alors, vous pouvez me dire, mais avec ce que tu viens d'expliquer, pourquoi est-ce si important là où nous sommes ? Eh bien, Dieu nous a donné des rendez-vous. Il nous a dit certaines choses. Il se passe certaines choses pour notre vie spirituelle à certains endroits et nous ne pouvons pas les ignorer. Vous vous rappelez les clés de la sagesse ? Si nous les ignorons, que se passe-t-il ? Nous pouvons périr. Si nous sommes au mauvais endroit, au mauvais moment, il peut y avoir des conséquences dramatiques. Si vous voulez prendre le train, mais que vous n'êtes pas sur le quai de la gare au moment où le train arrive, il ne se passe pas quelque chose forcément de dramatique, mais le train va partir sans vous. Ça, c'est quelque chose de très simple, tout le monde peut comprendre ça. Et quand Dieu vous fixe un rendez-vous et qu'il veut vous donner une parole dont vous avez besoin, et que vous n'êtes pas à l'endroit où Dieu veut vous donner cette parole, vous n'allez jamais la recevoir. Et vous en avez peut-être besoin. D'où l'importance de réaliser que nous avons des rendez-vous avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avions, je cite l'illustration, le prophète Élie, pendant la famine, Dieu lui a dit, va auprès du torrent, et là j'enverrai de la nourriture par les corbeaux, de la viande et du pain, le matin et le soir. Si Élie n'était pas allé à l'endroit où Dieu lui avait dit, que se serait-il passé ? Il n'aurait pas bénéficié de ça. Donc c'est extrêmement important de réaliser que là où nous sommes, c'est là le rendez-vous avec Dieu. C'est là qu'il y a la promesse pour la provision de Dieu. Dans Luc 24, à la fin des évangiles, Jésus avait dit « Restez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis ». Ça veut dire qu'il y avait une promesse particulière par rapport à l'endroit où il y aurait l'effusion du Saint-Esprit. Si les disciples avaient dit « Mais Dieu peut me donner le Saint-Esprit aussi bien chez moi, dans ma maison », ils ne l'auraient pas reçu. Voyez, je vais simplement citer cette illustration pour que nous le réalisions. La quatrième clé pour la sagesse de Dieu, c'est qu'un jour de sa faveur vaut mieux qu'une vie de labeur. Ça peut être un jour de sa faveur ou une minute de sa faveur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de réaliser. Prenons ensemble Éphésiens au chapitre 2. Ce passage doit être assez connu par vous, puisque c'est la base de notre salut. Au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset résume ce que je viens de dire à l'instant. Un jour de sa faveur vaut mieux qu'une vie de labeur. Pour ceux qui s'imaginent qu'ils vont gagner le ciel par toute une vie de bonnes œuvres, eh bien, nous avons la réponse dans ce verset. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par ce moyen. C'est par le moyen de la foi. Ce n'est pas de nous. Donc, on peut dire qu'en un instant, j'ai dit un jour de sa faveur, mais ça ne prend même pas autant de temps pour être sauvé. Un instant. Simplement un moment où vous acceptez le plan de Dieu pour votre vie, le plan de salut. Qu'il a vraiment envoyé Jésus, que vous aviez besoin, qu'il meure pour vous, qu'il donne sa vie, qu'il se sacrifie pour que son sang coule, pour que vos péchés soient effacés. Et qu'il ressuscite afin que vous aussi puissiez être ressuscités avec lui. Donc c'est une façon où Dieu opère. En un instant, nous recevons par la grâce ce que d'autres essayent d'acquérir par des années de labeur et qu'ils n'obtiendront jamais. Ce qui ne veut pas dire non plus que nous devons rester les bras croisés ne faisant rien du tout et attendant que ça nous tombe du ciel, comme on dit. Parce qu'il y a des choses que nous devons mettre en œuvre. Le fait que le salut nous soit donné demande de nous de le recevoir. Entre quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, s'il n'y a pas à un moment le contact qui est établi, la chose est perdue. Si je tends un objet à quelqu'un et que lui tend la main, mais que je n'attends pas qu'il l'ait vraiment saisi pour le lâcher, cela tombe par terre. C'est quelque chose de très simple. De la même façon, si nous ne savons pas recevoir la bénédiction de Dieu et faire ce qu'il faut pour l'obtenir, alors, eh bien, il y a des choses qui sont perdues. Et nous avons des fois l'impression que, puisque c'est comme ça, un jour de la faveur de Dieu vaut mieux qu'une vie de labeur, il suffirait que je croise dans la rue un millionnaire qui écrive un chèque à mon nom et tous mes problèmes seraient réglés. Tous mes problèmes d'argent. Et avec les problèmes d'argent, les gens pensent que tous les autres problèmes seraient réglés aussi. Il est vrai que la Bible dit aussi que l'argent répond à tout. L'argent est une puissance qui nous permet de vivre notre vie comme nous le voulons. Si nous avons l'argent, nous pouvons choisir, nous pouvons faire des choix. J'ai beaucoup d'argent, je peux choisir où j'habite, ce que je mange, comment je voyage, dans quoi je roule, dans quel type de maison je vais habiter. Donc nous avons l'impression que c'est toujours un problème d'argent. Mais nous sommes en train de dire, ce n'est pas avant tout un problème d'argent, c'est avant tout un problème de sagesse de Dieu. Si nous comprenons comment agit la sagesse de Dieu, nous comprenons beaucoup de choses. Et Dieu nous donnera la solution. Un jour de sa faveur vaut mieux qu'une vie de labeur. Ça nous fait penser aussi au psaume 84, où il nous est dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit la révélation de la façon dont nous pouvons mener notre vie. Et je crois aussi que même chez les chrétiens, on peut raisonner de cette façon par rapport à l'argent. Ah, s'il y avait quelqu'un de très riche qui se convertit et qui accepte le salut, qui fasse partie de l'Église, et que ses offrandes et ses dîmes puissent couvrir tous nos projets, nous avons l'impression que ce serait la solution. C'est peut-être la solution pour régler certaines dépenses et régler certains projets que nous voudrions faire. Mais ce n'est certainement pas la réponse de Dieu à ce qu'il veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous avons besoin de réaliser que, bien plus que de répondre par une seule personne, le désir de Dieu, c'est que nous puissions ensemble tous travailler à l'édification du corps. Tous devenir une partie prenante. Et pendant que vous êtes en train de on va le voir tout à l'heure, d'ouvrir votre main pour donner votre part, eh bien Dieu va agir aussi dans votre vie de la même façon. Le cinquième point, c'est que la taille de ton ennemi détermine la taille de ta récompense. J'aimerais qu'on puisse ensemble partir de ce principe dans 1 Corinthiens 10, 13 nous parle de la tentation. Dans certaines versions, on parle d'épreuve plutôt que de tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je considère que d'une certaine façon, le mot tentation et épreuve peuvent être interchangeables. Parce que dans l'épreuve, vous êtes tenté. Vous êtes tenté d'être découragé, tenté de renoncer, d'abandonner. Et quand vous êtes tenté, c'est aussi une épreuve pour vous. Vous êtes en train de passer le test, de voir qu'est-ce qui est en vous. Quelle est la nature de votre attachement à Dieu? Est-ce que vous allez vous laisser aller ou est-ce que vous allez résister? Donc, à la lumière de ce passage, aucune tentation n'est survenue. Je crois que Dieu ne nous donne pas un adversaire qui soit au-delà de nos forces. Mais les choses que nous rencontrons, toutes les épreuves, toutes les difficultés, tous les problèmes peuvent être surmontées. Peuvent être surmontées. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être ça va me prendre du temps. Peut-être d'abord il faudra que je m'entraîne un petit peu. Mais ces choses peuvent être surmontées. Prenons l'exemple de David quand il a affronté Goliath. À l'époque, il n'était qu'un berger, un jeune homme. Lorsqu'il est venu vers Goliath, Goliath s'est moqué de lui. Parce qu'il nous est dit dans la Bible qu'il n'a vu que l'extérieur, il a vu quoi ? Un enfant. 1 Samuel 17, au verset 42, le Philistin le regardait, il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Ça ne fait pas très guerrier. Un enfant blond et d'une belle figure. On aurait préféré un colosse avec peut-être un visage marqué des combats passés et je ne sais quoi. Mais le Philistin l'a méprisé parce qu'il n'a regardé que l'intérieur. Mais David n'était plus un enfant. Il avait déjà de l'expérience. Il savait protéger le troupeau de moutons. Et il nous est dit même que lorsque le roi Saül l'a interrogé, David a expliqué à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. » C'est au verset 34. « Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. » Je le frappais et je le tuais. Quand on voit la férocité de ces bêtes, les lions et les ours, pour qu'un berger puisse, en tant qu'enfant, il n'avait pas une taille démesurée, s'attaquer à un lion ou un ours, cela nous montre quelque chose de ce qui était déjà en train de se passer en David. Dieu avait le regard sur lui. Mais alors qu'il n'y avait que quelques héros choisis dans l'Ancien Testament, nous sommes maintenant, chacun d'entre nous, le peuple de Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Chacun choisi, chacun le temple du Saint-Esprit, chacun capable de faire des exploits. Et nous pouvons donc laisser le Seigneur nous entraîner à la guerre. Nous pouvons choisir de voir les difficultés et les épreuves, non pas en tant que telles, elles sont destinées à vous détruire. Ce n'est pas Dieu qui les envoie. Les circonstances de la vie, comme on dit souvent, c'est souvent le diable qui essaye de semer la mort, de semer la destruction. Et nous devons affronter ces choses, et il y a un temps où Dieu nous protège d'une certaine façon. Et il y a un temps où Dieu nous protège d'une autre façon. Il y a un temps où Dieu nous protège, dans la Bible, nous sommes des fois comparés à des poussins qu'une poule prend sous ses ailes. Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant « Combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes ? » Et dans le psaume 91, nous voyons cette déclaration que nous sommes à l'abri sous ses ailes. Mais il y a aussi quelque chose que Dieu veut faire avec son peuple qui est différent. Il veut que nous arrivions, et ce n'est pas étonnant que ça soit à la fin de la Bible, dans 1 Jean, c'est les dernières révélations du Nouveau Testament, dans 1 Jean 5, verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Alors beaucoup aimeraient rester des petits enfants, que Dieu les protège, que Dieu les choie, que Dieu fasse tout pour eux. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes ses bontés envers nous, mais nous devons comprendre que Dieu désire avoir des fils et des filles qui n'ont pas peur d'affronter des ennemis, qui n'ont pas peur d'affronter des épreuves, mais qui savent saisir ces épreuves en disant, « Eh bien, je vais les surmonter. Je vais en apprendre quelque chose. » Et plus la taille de l'ennemi augmente, plus la taille de la récompense sera grande. Vous voulez cela ? Dans Nombre 13, nous avons quelque chose d'important aussi, qui va nous aider dans ce sens, à mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Juste avant de rentrer dans le pays promis, ils avaient envoyé des espions, et voilà ce qu'ont dit certains des espions. Dans Nombre 13, au verset 27. Voilà ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Le pays est fortifié, le pays est puissant. Il y a des enfants d'Anak, c'était pour eux des géants, c'était une race d'hommes qui était de haute taille. Et quand ils ont vu ça, ils n'ont pas compris que c'est justement parce que le pays est puissant, parce que les géants sont grands, que la récompense est grande aussi. Le pays promis, c'était Dieu leur a dit, vous serez dans un pays, vous habiterez de belles maisons que vous n'avez point bâties. Voilà la promesse. Donc, sans parler maintenant du contexte de la conquête, mais simplement de comprendre que nous ne pouvons pas nous attendre à de grandes victoires en menant simplement de petites batailles. Ne soyons pas effrayés. Un enfant, David, a su remporter la victoire sur un géant, un homme de guerre comme Goliath, parce qu'il avait Dieu avec lui. Et nous sommes dans cette même situation. N'ayons pas peur. Beaucoup de gens ont donné ce témoignage. Quand je suis venu à Jésus au début, beaucoup de choses ne se sont pas réglées, mais ont semblé être encore plus difficiles. Il y a toujours une résistance de la part de l'ennemi pour vous empêcher de jouir des bienfaits que représente votre alliance avec Dieu. Mais ne soyez pas effrayés. Pensez qu'il y a une bonne récompense. Soyez prêts à relever des défis. Vous voulez relever des défis? C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont les champions de Dieu et ceux qui auront simplement été des moutons qui auront suivi le pas. Mais Dieu désire que chacun d'entre nous puissions relever des défis. La sixième clé, ce que tu es prêt à quitter détermine ce que Dieu va te donner. Nous avons déjà abordé un petit peu ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac. J'aimerais y revenir un instant. Dieu avait dit à Abraham, « Va sur cette montagne et offre-moi en sacrifice Isaac, celui que tu aimes, ton fils unique, ce que tu as de plus cher. » Et Abraham était d'accord. Il a accepté. Vous rendez compte? Il a accepté. Il est allé. Et quand nous lisons l'histoire, c'est impressionnant de voir avec quelle détermination il est allé. Quand Isaac lui pose des questions, ben voilà, on a le bois, on a ce qu'il faut pour faire du feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham est déterminé. Et il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et en faisant ça, il prophétise déjà sur ce qui allait se passer, où Dieu allait offrir l'agneau qui sauve les péchés du monde. Et je pense que, quelqu'un en a parlé une fois, je pense qu'est-ce qui a dû se passer dans le cœur de Dieu quand il a vu cette scène, quand il a vu cet homme déterminé à offrir son fils unique. S'il y avait eu une hésitation quelconque dans la pensée de Dieu à offrir son fils unique, à ce moment-là, il ne pouvait plus faire marche arrière. Vous vous rendez compte? Ça va jusque-là. Il ne pouvait plus faire marche arrière parce qu'un homme était prêt à faire ça. Et c'était prophétique, c'était une annonce de quelque chose qui allait avoir lieu plus tard. Mais il y a un lien étroit entre ce qui se passe sur terre et ce qui se passe dans le ciel. Vous le croyez? Nous avons une Jérusalem terrestre ici, qui est la cité que Dieu a choisie. Il a choisi pour son peuple d'Israël avec une alliance. Et nous, nous sommes le peuple de Dieu par la nouvelle alliance, par le sang de Jésus. Nous sommes citoyens des cieux dans la Jérusalem céleste. Mais il y a constamment des liens entre les deux. Et il y a une loi, on pourrait l'appeler la loi des réciproques. Il y a des choses qui se passent dans les deux mondes, le monde spirituel et le monde physique. C'est ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 18. Soyez bien attentifs à ça. Peut-être vous l'avez souvent entendu ce passage. Mais j'aimerais qu'il redevienne vivant pour vous encore une fois. Je vous le dis en vérité. Jésus le dit en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je dis que ce prophète Abraham, en étant prêt à offrir en sacrifice son fils unique Isaac, a annoncé d'avance ce que Dieu le Père ferait par rapport à son Fils unique. C'est aussi important que ça. Il ne fallait pas qu'il rate cette occasion. Et pour lui, c'était une source de bénédiction extraordinaire. Donc, n'ayons pas peur de ce que Dieu va nous demander. Trop souvent, les gens ont peur. Ils ne connaissent pas encore la nature de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois privé de quelque chose. Il veut au contraire que tu lui ouvres une porte pour la bénédiction. Si nous ouvrons notre main pour donner, Dieu ouvre la sienne pour donner aussi. Parce qu'il y a un lien entre nous et lui. Parce qu'il y a un lien spirituel entre ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe dans le ciel. Si nous retenons quelque chose, les choses sont retenues dans le ciel aussi. C'est pas que Dieu veuille les retenir, c'est que nous les retenons. Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » On vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui l'a dit. Si vous dites, si vous vous plaignez de certaines choses dans votre vie, vous êtes le premier responsable de la vie que vous menez actuellement. C'est des paroles dures, mais c'est la réalité. Et nous ne pourrons pas progresser tant que nous n'aurons pas accepté ça. J'ai dit, quelqu'un qui est alcoolique ne peut pas se sortir de l'alcool tant qu'il refuse de se voir comme ça. Il a besoin d'abord de réaliser, oui, j'en suis là. J'ai ce problème, et après on vient à Dieu pour la solution. On ne continue pas de dire pendant 10 ans, j'ai ce problème. Sinon, on va le garder. Mais donc, quand nous avons quelque chose qui ne va pas, bien sûr, c'est le diable qui est venu, qui a voulu nous détruire, qui a voulu nous faire du mal. Mais nous sommes installés dans une situation parce que nous avons commencé à accepter le plan du diable pour notre vie. Donc nous devons commencer avec la sagesse de Dieu de penser autrement et de dire, eh bien, je vais faire quelque chose pour que ça change. Je vais agir d'une certaine façon pour que ça change. Et vous voyez que maintenant, le plan de Dieu pour vous, vous voyez comment les différentes clés permettent d'ouvrir cette porte vers la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer ce que vous regardez, vos yeux, ce que vous désirez. Vous allez faire dans la suite, vous allez mettre de l'ordre dans certaines choses, dans vos pensées, de l'ordre dans vos priorités. Qu'est-ce qui est numéro un dans ma vie? Ensuite, vous allez à l'endroit où vous avez besoin d'être. C'est pas seulement un endroit physique, c'est un endroit spirituel, le lieu de prière. Vous vous rappelez, Jésus a dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ça veut dire, aie ce lieu de rendez-vous avec Dieu. D'abord, cet endroit où tu fermes la porte, c'est-à-dire, tu ne laisses pas d'influence extérieure constamment te distraire, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte. Tu vas au lieu où Dieu veut te rencontrer. Ça peut être n'importe où. Et en même temps, c'est un lieu très précis. Ça peut être le lieu de l'église locale, là où les ministères sont en action, les dons que Dieu a donnés pour t'édifier, pour t'encourager, pour te corriger aussi. Corriger, ça veut dire redresser. Quand tu es dans la mauvaise direction, tu as un endroit où on te dit « Non, tu es dans la mauvaise direction. » Si par orgueil, certains préfèrent ne pas écouter et qu'ils s'éloignent de l'église locale, ils n'ont plus personne pour les corriger. Alors, ils sont eux-mêmes leurs propres guides. Mais nous ne pouvons pas être notre propre guide. Nous avons aussi besoin que d'autres agissent et nous disent quand nous sommes dans l'erreur. De compter sur la faveur de Dieu. Il y a beaucoup de choses, nous l'avons vu, que nous ne pouvons pas mériter. Mais nous pouvons compter sur la faveur de Dieu. En même temps, on ne peut pas non plus rester les bras croisés à attendre que ça soit tout prêt. Nous avons besoin de comprendre que Dieu veut nous faire grandir dans certaines choses, participer pour recevoir des bénédictions, de voir qu'il y aura des épreuves. La taille de notre ennemi sera peut-être grand, mais nous avons la promesse de Dieu. Nous pourrons le vaincre. Et de voir que nous devons être prêts à quitter quelque chose. Voyons ensemble Éphésiens 5. Qu'est-ce qu'il y a dans Éphésiens 5? Non, c'est juste avant, pardon. Avant Éphésiens 5, c'est dans Éphésiens 4, au verset 17. J'ai ce petit chapitre au-dessus dans ma Bible qui dit « Dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau ». Ce que tu es prêt à quitter détermine ce que Dieu va te donner. Si tu es prêt à quitter le vieil homme, Dieu va te donner l'homme nouveau. Et en même temps, si tu permets à Dieu de faire de toi un homme nouveau, le vieil homme va disparaître. Les deux ne peuvent pas constamment cohabiter. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas vous habiller de deux manteaux à la fois. Il faut enlever le vieux si vous avez un nouveau qui vous est offert. Et celui que Dieu vous donne, l'homme nouveau que vous devez revêtir, est bien plus beau que le vieux. Dans Marc 10, quand Pierre a dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi », c'était un peu une façon de se plaindre. Je ne veux pas faire maintenant le procès des apôtres et dire que nous aurions été mieux à leur place, mais c'était une façon de dire, « Regarde, Seigneur, tout ce que nous avons sacrifié pour toi. » Et Jésus aurait pu lui dire à ce moment-là, « Eh bien, si tu n'es pas content, tu peux retourner et faire ce que tu avais fait avant de me rencontrer. » Et qu'est-ce qu'il avait fait avant de rencontrer Jésus? Il avait pêché toute la nuit sans rien attraper. Et des fois, il y a des gens qui se laissent piéger par le diable en disant, mais avec tous les efforts que j'ai faits pour être chrétien et tout ce que j'ai fait, je suis allé à l'église, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, j'ai donné. Et qu'est-ce que ça m'a apporté finalement? J'ai quand même des problèmes et des difficultés. Alors on peut leur dire, eh bien, retourne si vraiment c'est ce que tu désires. Si tu crois que tu seras plus heureux, retourne à ta vie d'avant. Tu peux retourner dans l'esclavage du diable comme tu étais et tu verras si tu en seras heureux. Mais au contraire, Jésus n'a pas dit ça, il n'a pas dit retourne. Il a dit ne t'en fais pas. Il dit tu as laissé des choses, mais ne t'en fais pas. Car tous ceux qui ont quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, recevront au centuple présentement dans ce siècle-ci. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Ça veut dire, ça ne sera pas toujours facile. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Remarquez, ce passage, Pierre a dit cela, juste après qu'il y a eu l'épisode du jeune homme riche. Jésus avait proposé à ce jeune homme de le suivre, et puis il avait dit qu'il devait laisser ses richesses. Il devait vendre tout ce qu'il a, qu'il devait le donner aux pauvres et le suivre. Et ce jeune homme n'a pas compris. Il a compris que Dieu lui demande un sacrifice qui est au-delà de ce qu'il peut supporter. Et il était tout triste parce qu'il n'a pas compris que Jésus lui proposait en réalité d'être avec lui et d'être sa source. Dieu nous propose un marché, ne l'oubliez pas, que nous lui donnions tout ce que nous avons et en réponse, il nous donnera tout ce que lui a. Nous sommes largement gagnants, largement. Quand nous faisons confiance à Dieu, on ne peut pas être trompé, on ne peut pas être abusé. C'est comme si on disait à un petit enfant, donne-moi ton tricycle, alors il y tient son vélo. Mais quand le jeune homme a 14, 15, 16 ans et qu'il désire avoir une moto, il ne veut plus faire du tricycle. Il aimerait bien échanger son tricycle contre une moto, croyez pas? Eh bien, c'est la même chose pour les choses spirituelles. Dieu nous propose, c'est la loi des semailles. Nous semons quelque chose et il y a une récolte. Il y a une récolte selon la richesse de Dieu. Pas juste je sème un et je reçois un. Mais il est dit dans la parole de Dieu, ici c'est une question du centuple. Alors il y a des gens qui disent, le centuple, est-ce que c'est possible d'imaginer le centuple? Vous pouvez imaginer encore beaucoup plus. Éphésiens 3:20 nous dit que Dieu peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous ne croyez pas que Dieu peut faire infiniment au-delà? Dieu peut faire au centuple facilement. Et il peut faire encore beaucoup plus que ça. Jésus a dit, certains rapportent 30, 60 et 100 pour un. Certains, c'est le centuple. Pour d'autres, c'est encore plus que le centuple. J'ai entendu le témoignage de quelqu'un qui a reçu 1000 fois ce qu'il avait semé pour l'œuvre de Dieu. Et dans Deutéronome 1, au verset 11, il y a ce verset, « Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. » Alors pour ceux qui veulent croire plus que le centuple, vous pouvez regarder Deutéronome 1, 11. La septième clé qui est importante aussi, c'est l'onction, la présence manifeste de l'Esprit de Dieu. Vous savez ce que c'est l'onction? C'est quand le Saint-Esprit agit. Quand le Saint-Esprit, vous pouvez voir les résultats de sa présence, voir les résultats de son action. L'onction que tu respectes, il faut respecter l'onction. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas mépriser ce que l'Esprit de Dieu fait. Jésus a dit que vous pouvez peut-être blasphémer contre le Fils de l'homme et il vous sera pardonné. Mais si vous refusez l'action de l'Esprit de Dieu, qui peut vous aider? C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la croix, qui nous donne la consolation et qui nous encourage pour continuer. L'onction que tu respectes est celle qui va grandir dans ta vie. Prenons un instant pour voir Élie et Élisée. Élisée avait servi auprès de Élie pendant assez longtemps. Il n'est pas tout de suite rentré dans le ministère, il a d'abord servi. Mais il a respecté cette onction. Il a respecté l'onction du prophète, mais quand il a entendu que le prophète Élisée allait monter au ciel, il lui a fait une demande. Il a dit, je demande qu'il y ait une double portion de ton esprit sur moi. Il a respecté l'onction. Il a tellement respecté qu'il la désirait et qu'il la voulait encore plus fort. Parce qu'il a vu aussi les difficultés dans la vie d'Élie. Il a dit, si Élie le prophète n'a pas réussi avec l'onction que Dieu lui a donnée, alors moi j'ai besoin de plus encore. Et Dieu lui a accordé. Et j'aimerais dire encore un petit slogan. Un ami, quelle est la définition d'un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui nous aime comme nous sommes. Qui sait tout de nous et il nous aime comme nous sommes. Mais un mentor, c'est quelqu'un qui nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Et nous n'avons pas seulement besoin de gens qui nous encouragent, qui soient des amis, mais nous avons aussi besoin de quelqu'un qui a l'onction sur lui, que nous respectons et qui va nous conduire. Et qui va même nous dire des choses pour nous donner des directions qui vont peut-être pas toujours nous plaire. Le mentor n'est pas toujours l'ami. Le mentor peut être celui qui aime et qui comprend, mais il peut aussi être celui qui dit ce qu'il faut faire.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.